Alléluia, Papa. Seigneur, on te remercie vraiment pour ta présence, pour la joie de se réunir autour de ton nom, de ta personne. Merci que tu es avec nous ce matin. Seigneur, on invoque vraiment ton nom. On désire vraiment que tu nous touches encore ce matin, que tu aies une rencontre personnelle avec nous, que tu aies un cœur à cœur avec chacun de nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur mon cœur. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Je voudrais juste parler d'abord. Qu'est-ce qui définit un royaume? Qu'est-ce qui définit... Pardon? Il y a un roi. Premièrement, il y a un roi. Hein, et ensuite, il y a des sujets. Il y a même encore autre chose dont on parlera tout à l'heure. Et quand je pensais au fait qu'il y a des rois, est-ce que vous avez déjà réalisé combien l'histoire de la parole est basée sur les rois? Ou sur des hauts dignitaires, sur des grands chefs, sur des personnages vraiment très importants? Si on commence déjà rien que par Abraham, c'était un homme riche. Isaac, Jacob, c'était des hommes riches, c'était des princes, princes parmi les princes. Ensuite, Moïse, c'était un chef, il était né dans la cour de Pharaon, il était élevé avec les plus grands rois de la terre, il a tout appris et il est devenu lui-même un chef d'État, un chef d'État qui a bouleversé le monde, qui est à la base de la création d'une nation. Josué, chef d'État lui aussi, les juges, toute l'histoire des juges, des chefs d'État. Ensuite, il y a eu Samuel, le grand prophète, le grand juge en Israël. Les rois d'Israël, toute l'histoire de dynastie, tous les livres des rois, les livres des chroniques, c'est l'histoire d'une dynastie de rois qui viennent les uns après les autres. Alors on se dit peut-être ça s'arrête, mais non, on a encore le livre d'Esther, une reine. On parle d'un roi. Ensuite, il y a encore Néhémie, Esdras, ce sont des gouverneurs. Job, un des hommes les plus riches de son temps, un prince, un haut dignitaire lui aussi. Est-ce que c'est fini? Non, il y a encore eu Daniel. Daniel était un homme d'État, un des chefs d'un des plus grands États de ce moment. Et après, on passe au petit prophète. Et là, effectivement, on ne s'occupe plus vraiment de roi. On passe comme s'il y avait un autre temps. Mais le Seigneur, il aime les rois. Le Seigneur travaille avec des rois. Quand on regarde toute cette histoire, c'est quelque chose qui ressort de très fort. Le Seigneur aime s'occuper des rois. Il aime travailler avec les rois. Pourquoi? Parce que je pense que les rois nous parlent du roi des rois. Lui-même est un roi. Il a un royaume, il est roi. Il comprend les rois. Il sait ce que pensent les rois. Vous savez que la parole de Dieu nous dit « honorer le roi ». Paul a dit « honorer le roi ». Le Seigneur honore les rois. Il respecte les rois. Vous savez ce qui accompagne les rois? Juliette nous parlait de sujets. Donc effectivement, il y a des sujets, mais il y a quelque chose entre les rois et les sujets. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la cour. Il y a premièrement la famille royale. Quand il y a un roi, ça veut dire que la plupart du temps, c'est un roi qui est roi par héritage. Il a reçu le trône. S'il a reçu le trône, ça veut dire que son père était roi, que sa mère était reine. Ça veut dire qu'il a sûrement des frères et sœurs qui auraient pu être rois, mais qui sont princes. Il y a des cousins, des cousines qui sont peut-être aussi princes et princesses. Il y a des tontons, des tatas qui ont un rôle royal, qui ont reçu des postes dans l'administration la plupart du temps. Si vous regardez, David, par exemple, il avait placé ses fils, il avait placé des oncles, etc. Ils avaient des postes à de haute importance, des postes très important, au plus haut niveau de l'État. Donc ça, c'est la famille royale. Et à côté de la famille royale, il y a encore les nobles. Il y a toute une cour. Il y a tous ceux qui ont reçu de hauts postes d'administration, de gestion du royaume. Et que souvent, c'était des postes donnés à une famille. Ce sont des familles qui recevaient des fonctions royales, des fonctions d'administration importantes. Et donc tout ça, ça se développait autour du roi. Il y avait tout ce qu'on peut appeler une noblesse. Il y avait de la noblesse autour du roi. Le roi ne fonctionnait jamais tout seul. Il avait toute une noblesse qui travaillait à côté de lui, qui avait des hauts postes, des hauts rangs. On peut lire dans Daniel 1, 3 à 4. Qu'est-ce qu'on se rappelle de Daniel? Qu'est-ce que vous vous rappelez de lui? Si je dis Daniel, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Qu'est-ce qui vous vient en tête? la prière, fidélité, persévérance, détermination, la foi, comment ? Intégrité, courageux.
Oh là là !
Pardon ? Jeune et beau, c'est déjà pas. On approche de mon sujet. Instruit. Mais premièrement, quand même, c'était un grand prophète. Hein. C'est un prophète qui a vu l'histoire des nations jusque très loin en avant. Il a prophétisé sur toutes les périodes de son temps jusqu'à la fin du monde. C'est un des plus grands prophètes quand même de la parole. Deuxièmement, c'était un immense chef d'État. Il était le deuxième après le roi d'un des plus grands, des plus puissants États de ce temps-là. Donc un grand prophète du Seigneur. Ensuite, troisièmement, on peut dire que c'est un des hommes les plus intègres de la parole. Si vous regardez, le Seigneur n'a aucun reproche contre eux. Daniel. C'est un des seuls hommes de la parole. Il n'y a rien contre lui. Pas ça, quoi. Le seul homme que je connaisse autrement, c'est Enoch. Le Seigneur n'a rien à dire. Et éventuellement Job, sauf que le Seigneur le reprend un tout petit peu à la fin. Il ne dit pas qu'il a péché, mais il lui dit « Tu as parlé de moi sans savoir ». Donc il y a un tout petit reproche de pas grand-chose, mais... Donc pour moi, les deux hommes quand le Seigneur n'a rien à dire, il y a Enoch et Daniel. Daniel, c'était quand même un personnage vraiment à part. Et alors, ce que vous avez oublié de dire, c'est que si on lit, donc on lit à partir du verset 1, donc Nebuchadnezzar a attaqué Jérusalem, il l'a assiégé. Le Seigneur lui a livré Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et donc quand il a emmené le roi, qu'est-ce qu'il a emmené avec lui ? Il a emmené toute la cour, toute la noblesse. Il a justement pris tous ceux qui étaient les chefs de l'État, ceux qui s'occupaient d'une fonction importante. Parce que s'il disait « je coupe la tête », la nation elle n'existe plus. C'était la façon de casser une nation. J'enlève le roi, ils enlèvent la noblesse. Le roi, l'État n'existe quasiment plus. Les sujets tout seuls ne font pas un royaume. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le roi voulait traiter d'égal à égal. Il a demandé, je veux que vous me trouviez des princes, des princesses, comme trouviez des jeunes de haute famille. Pourquoi ? Parce qu'il se dit chez eux, j'aurai plus de chances de trouver quelqu'un sans défaut corporel, beau, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir, capable d'apprendre, capable d'être formé, d'évoluer et d'occuper des postes à haute responsabilité. Où est-ce que je vais les prendre ? Je vais les prendre dans les familles royales, et dans la noblesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une culture. Il y a une culture d'éducation, une culture de formation, une culture de mentalité royale, de mentalité noble. Il y a quelque chose là qui est transmis de génération en génération qui fait que les personnes sont capables, sont déjà instruites, formées, ont quelque chose en eux d'énergique, de fort, de courageux pour aller de l'avant, pour apprendre, pour occuper des responsabilités. Je veux que vous trouviez ces jeunes. Et il a trouvé Daniel. Il a trouvé encore ces trois jeunes. Et Daniel, de famille noble, de roi royal, a été un homme qui n'a pas courbé le genou devant le plus grand roi de la terre de ce moment. Il y avait des armées puissantes devant lui. Il y avait des hommes, des sorciers, des mages, des magiciens, avec des pouvoirs occultes hyper puissants. Il y avait le plus grand roi de la terre. Et ce jeune homme n'a pas bronché. Il a accepté d'aller jusqu'au bout, au prix de sa vie. Parce que quelque chose en lui avait été formé de crainte de Dieu, d'amour du Père et d'une mentalité royale. Il y avait en lui une mentalité royale, une mentalité de noblesse. Le Seigneur aime la noblesse, il aime la royauté. Regardez si on lit dans Lamentations 4, Verset 2, on va lire au verset 1. Donc Jérémie, bien sûr, il pleure sur l'état d'Israël. Hein. Et quoi ? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. C'est quoi l'or qui a perdu son état, son éclat ? Qu'est-ce que c'est, les pierres qui sont dispersées ? Verset 2. Les nobles, fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur. Les nobles, fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur. Le Seigneur déclare que sa noblesse, la noblesse de son état d'Israël qu'il aimait tant, il les regarde comme de l'or pur. Parce que c'était une race qui était destinée à la gouvernance pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Il les aimait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont regardés, hélas, comme des vases de terre, comme de la terre qui est jetée par terre. Verset 7. Ces princes, on peut lire au verset 6, le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail et leur figure était comme le saphir. Leur aspect est désormais plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim et qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, l'État d'Israël est tombé par terre. Pourquoi ? Parce que sa noblesse est par terre. Et comment il décrivait les princes ? Éclatants comme la neige, blancs comme le lait, vermeils comme le corail, et une figure comme le saphir. Le Seigneur élève ses princes, le Seigneur aime ses princes. À côté d'un roi, il y a des princes. Il y a plusieurs mots comme ça qui décrivent dans la parole. Il y a les princes, les grands, les chefs, les hauts dignitaires. Le Seigneur les estime. Il a du respect pour eux, il les honore et il les aimait. Et qu'est-ce qui se passe quand une nation veut attaquer une nation ? Elle détruit sa noblesse, elle détruit la race royale. Alors qu'est-ce qui se passe si on lit la parole, je ne vais pas vous dire de sortir tous les passages. Si les princes, si la race royale, si la noblesse, elle suivait Dieu, qu'elle craignait Dieu, qu'elle aimait Dieu, c'était tout le bonheur de la nation qui suivait. La nation était bénie, elle était enrichie, elle était élevée, elle était reconnue comme une nation parmi les nations. Et si les princes, si les grands, si les chefs, si la race royale, si la noblesse, elle se détournait de Dieu, elle commençait à vivre pour elle-même. Elle commençait à se satisfaire elle-même, si elle utilisait sa richesse et sa gloire pour elle-même, et qu'elle se détournait de la gloire de Dieu. C'était le malheur de la nation, c'est la nation qui était maudite, c'est la nation qui commençait à perdre dans les guerres, et qui commençait à perdre son rang, et qui commençait à s'écrouler. Le rôle des chefs était important, était primordial. Et le Seigneur a souvent parlé à ses princes, il a parlé à ses rois. Il a dit, craignez Dieu, tournez-vous vers Dieu. Il ne parlait pas au sujet, parce qu'il disait, les sujets, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre leur cours, ils vont suivre la noblesse, ils vont suivre la race royale. Ils vont suivre le roi, ils vont les suivre où ils iront. Et alors quand le Seigneur devait corriger, il s'adressait en premier aux princes. Les premiers qui étaient châtiés, c'était les princes. On pourrait tout regarder l'histoire, hein. C'est ce qu'on voit. J'aimerais qu'on lise dans Ésaïe 32. Le désir ardent du cœur de Dieu et sa promesse. Regardez, verset 1. Alors le roi va régner selon la justice et les princes vont gouverner selon la droiture. Chacun d'eux sera comme un abri. C'est qui ? Chacun d'eux. Les princes. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Verset 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Sera déclaré noble celui qui est vraiment noble. Et l'insensé sera déclaré insensé. Une nation est dans un problème quand on commence à honorer la folie et qu'on rejette la noblesse. Verset 8. Celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. On commence à voir qu'est-ce qu'il y a dans la noblesse, dans le caractère de la noblesse. Il y a le rang, mais il y a aussi un caractère qui va avec. Il y a un caractère de noblesse. Je forme de nobles desseins, des projets de haute valeur, des stratégies puissantes. Et je continue parce que j'ai le courage de la noblesse, de ma race royale, j'ai du courage, de l'énergie, de la force. Non seulement j'établis des projets, des stratégies et des desseins, mais je continue et je vais jusqu'au bout et j'accomplis ce que j'ai projeté. C'est le caractère de la noblesse. Il y a quelque chose dans la noblesse que Dieu élève, que Dieu honore et que Dieu reconnaît. Où est-ce qu'on va avec tout ça? C'était pour Israël. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Alors bien sûr, les rois, les princes, les chefs, tout cela sont des types de Jésus. Il est déclaré, il est appelé dans la parole le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais il est aussi le prince de la paix, le prince de la vie, le prince des rois de la terre. Il a été élevé comme prince et sauveur. Il est le prince de notre salut. Amen. Ce sont des titres du roi de notre Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur s'arrête là? Quand Jésus prend un titre, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Est-ce que Jésus veut dire, c'est mon titre, courbez-vous devant moi. Vous êtes mes sujets, voilà mon titre, parce que j'aime trop quand je suis glorifié, élevé, et que vous êtes un peu en bas. Non. Le but de Jésus, depuis le début, c'était d'avoir des pères. Alors, c'est pas P-E-R-E-S, c'est des pères, P-A-I-R-S. Vous savez que la parole, elle dit dans Hébreux 1, tu as reçu nul de joie à côté de tes égaux, à côté de tes pères. C'est dans Psaume 45 aussi. Tes égaux, tes pères. Le Seigneur Jésus a cherché sur la terre des égaux. Quelqu'un qui va partager avec lui ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il a. Et en tant que prince, il a décidé d'avoir à côté de lui des princes et des princesses. Israël est toujours, comme d'habitude, une description qui parle à l'Église, une parabole vivante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur va chercher les siens dans les rois royales de nos États ou dans la noblesse de nos États? La parole est claire. Elle dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages, il n'y a pas parmi vous beaucoup de puissants, et il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles. Le Seigneur a choisi les choses qui sont faibles, les choses qui ne sont pas, celles qui n'ont pas de force, celles qui semblent sans noblesse, pour les élever, pas pour les laisser dans leur état, pas pour les laisser sans sagesse, sans puissance, sans noblesse, sans valeur, sans dignité. Ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Le Seigneur les prend et il les élève. Psaume 113, verset 8. Qui est semblable, verset 5, à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il est en haut. En haut. Hein? Le Seigneur le reconnaît, il est en haut. Mais est-ce qu'il nous dit que vous restez en bas? Regardez ce qu'il dit. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il prend celui qui est dans la poussière, celui qui est tout en bas, celui qu'on méprise, celui qu'on écrase. Il le prend et il l'élève. Il le fait asseoir avec les grands, à ses côtés. Ils sont où les grands? Les grands que le Seigneur honore, ils sont à ses côtés. Et il fait asseoir ceux qui ne sont pas. Amen. Il prend ceux qui sont dans la poussière, il les fait asseoir avec les grands. 1 Samuel 2, 8. C'est le même passage avec une petite précision. Une petite précision que je trouve assez croustillante. Hein, vous savez, c'est le passage de Anne. Elle est stérile. Elle ne peut pas avoir des fils. Elle est regardée comme en échec. Situation d'échec total. Anne, tu as raté ta vie. Tu n'as pas pu avoir d'enfant. Honte à toi. Tout le monde se rit d'elle, tout le monde se moque d'elle. Elle crie à Dieu et Dieu lui donne un fils. Et qu'est-ce qu'elle dit? L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Il fait mourir, il fait vivre. Je reviens juste en un verset en arrière. Et je reviens au verset 7. Il abaisse et il élève, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Voilà notre héritage, voilà notre avenir. Qui est-ce qui était dans la poussière au milieu de nous ? Moi, j'y étais. On sort tous de la poussière. Le Seigneur est venu nous chercher, nous prendre, et nous a sortis comme un trophée. Est-ce que vous avez vu le film de Monte Cristo avec Depardieu ? Vous savez, c'est dans le générique, quand il sort de la mer avec sa croix, comme un vainqueur. Cette image, pour moi, c'est exactement celle du Seigneur qui est venu nous chercher dans la poussière, dans l'échec, et il nous a sortis, il nous prend comme un vainqueur, et il en est son trophée. Et il nous élève, et il nous fait asseoir avec les grands, et il nous donne en partage un trône de gloire. Il nous fait asseoir sur des trônes. Il nous fait de nous des princes et des princesses. Job 36, verset 7. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. C'est qui les justes, on disait déjà, au fait ? C'est nous les justes. Pourquoi est-ce que la loi elle ne gagne pas contre la grâce ? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi ? C'est pas parce que l'amour de Jésus est plus fort que la justice, mais c'est parce que la justice et l'amour de Dieu se sont unis et mis d'accord pour trouver un plan pour mettre en point un plan de salut. Et que l'amour et la justice mis d'accord ensemble ont payé le prix exigé par la loi. Quand la loi elle vient et qu'elle rencontre la grâce, la loi dit c'est grâce, t'as gagné, parce que le prix est payé. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de tromperie. La loi est honorée, elle est accomplie. Et c'est pour ça que la grâce, elle a le droit. Et c'est pour ça qu'on est déclaré juste. Ce n'est pas injuste, ce n'est pas n'importe quoi, c'est payé. Donc ta justice, c'est une justice parfaitement légal. C'est parfaitement légal. Et si tu te regardes toujours injuste, c'est illégal. Tu es dans l'illégalité. Tu es hors la loi parce que tu veux encore te considérer comme devant payer quelque chose qui est déjà payé. Tu ne le peux pas le payer. Si tu dois le payer, la seule chose, c'est ok, tu meurs. C'est le seul paiement que tu peux donner. Mais maintenant, tu es appelé à vivre et tu es appelé injuste et c'est parfaitement légal. Tu es dans la légalité totale. C'est à toi, tu as juste à y marcher. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, mais il les place sur le trône avec les rois. Est-ce que je peux dire avec la race royale, avec la noblesse, avec les hauts dignitaires, avec les princes de haut rang? C'est là ta place, c'est là ton rang. C'est là que tu es placé par le roi des rois. Il a le droit, il est le roi. Il fait ce qu'il veut. Il les fait asseoir jusqu'à demain, après-demain. Il les fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient abaissés. Afin qu'ils soient élevés. Le Seigneur veut que tu sois élevé. Il y en a un qui veut que tu sois abaissé. Et il a mis en toi la mentalité de l'abaissement et de la descente, afin qu'il n'ait plus de travail à faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en toi une programmation d'abaissement et de descente, et de poussière, et de nullité, et d'échec. Et maintenant, il s'assoit sur son trône à lui, fait de méchanceté et de médiocrité, et il te regarde travailler. Son programme travaille tout seul. Il n'a plus rien à faire. Tu le fais à sa place. Tu descends. Tu te descends toi-même, tu te casses toi-même. Tu t'abaisses toi-même, tu nages dans la poussière. Tu manges la poussière tous les jours. Tu te nourris de mentalité d'échec et de défaite et de nullité et d'écrasement. Il n'a plus rien à faire, tu le fais tout seul. Et le Seigneur, il vient et il te bombarde de pensées différentes. Jour après jour, il vient. Non, c'est un mensonge, c'est faux. Tu as de la valeur. Tu es mien, tu es à moi. Le Seigneur plaide avec toi. Tous les jours, il dit, viens, plaidons ensemble. Je ne vais pas plaider avec toi pour te dire que tu es un pécheur. Je plaide avec toi pour te dire que quand tu reconnais ton péché, tu peux recevoir ma justice et y marcher. Je plaide avec toi pour que tu saches que tu es juste, que tu es un racheté, que tu es l'un de mes fils, un des miens, que tu es élevé avec moi, que tu es sur le trône avec moi, que ta destinée est de régner. et que je suis en train de construire ma noblesse. Je suis en train de construire ma race royale parce que je ne suis pas un roi qui n'a que des sujets. Je suis un roi qui règne, mais avec ma race royale, avec mes fils et mes filles, avec ma noblesse, mes hauts dignitaires, mes princes de haut rang. Ils sont sur mes trônes. Je n'ai pas un trône où je suis seul. À côté de moi, si vous lisez ma parole, il y a marqué qu'il y a des trônes. Et mes trônes sont pour vous, afin que vous y asseyez et que vous régniez. Ecclésiaste 4, 14. Qu'est-ce qu'il a pu dire, Ecclésiaste ? Là-dessus, je ne vois pas le rapport Ecclésiaste, il n'a pas parlé de ça. 4, 14. Il peut sortir de prison pour régner. Tu sors de prison pour régner. Tu sors de ta prison, la prison de ta vie échouée, pour régner, rentrer dans une vie nouvelle. Et régner avec le roi. Apocalypse 3, 21, vous le connaissez, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Sur mon trône. Sur mon trône. Le trône du roi est assez vaste pour toute la race royale et toute sa noblesse. Ton trône, ce sera celui du Seigneur. Psaume 16, verset 6. Le psaume 16 est un merveilleux psaume, vous devriez y retourner un peu. Verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot, mon héritage, ma part. Un héritage délicieux mais issu et une belle possession m'est accordée. Et des traductions disent une noble possession. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passait dans la famille, dans la noblesse? Quand tu naissais dans la noblesse, tu devais commencer à bosser. On t'avait ouvert un compte et il y avait zéro sur ton compte. Et puis on t'avait mis des haillons sur toi. Et puis on t'avait fait coucher dans l'étable. Et on t'avait dit, maintenant tu vas essayer de grandir. Et puis quand tu seras assez grand, tu vas pouvoir commencer à travailler et mettre un peu d'argent sur ton compte. Et puis tu vas pouvoir commencer à t'acheter des habits de justice, des habits assez pas trop mal. Et puis un jour, si tu continues à bien travailler, tu vas pouvoir commencer à être le serviteur d'un noble. Et puis un jour, peut-être que tu arriveras à devenir son conseiller principal. Est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qui se passait quand tu naissais dans la noblesse? Tu as déjà on t'ouvre un compte et on te met 100 millions d'euros dessus. Tu as des habits de soie, des habits magnifiques. Tu dors dans la plus belle chambre de la maison. Tu es promis un brillant avenir. Tes écoles de formation te sont déjà toutes tracées. Tu vas faire Harvard, Yale, je sais pas quoi, Oxford. Tu vas devenir un des. Tu vas faire aussi l'ENA peut-être ou autre chose dans ce goût-là. Tu as les plus hauts postes qui te sont promis. Tu es destiné à être un des hauts dignitaires de la nation. Amen. Voilà ce que c'est quand tu étais un noble. Tu reçois un héritage, tu as des châteaux qui t'attendent, tu as des terres. Ça, c'est la noblesse. Parce que, et qu'est-ce que tu as fait pour ça? Qu'est-ce que tu as fait pour ça, dis-moi-le, qu'est-ce que tu as fait? Rien, tu es juste né. Mais tu es né au bon moment, au bon endroit, dans la bonne famille. Tu es juste bien né. Tu es bien né. Qu'est-ce qu'un juif a fait pour être juif? Qu'est-ce qu'un juif a fait pour être juif? Est-ce qu'il a dû obéir à toute la loi? Est-ce qu'il a dû suivre toutes les alliances? Est-ce qu'il a dû faire 10 pèlerinages dans la vie? À partir de quel moment un juif est juif? Quand il est né. Il reçoit la judaïté par sa naissance. Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Quand tu as obéi à toute la loi? Quand tu as commencé à faire tout ce que Dieu demandait que tu fasses? Est-ce que c'est quand tu as commencé à croire à tout l'héritage que tu avais? Est-ce que c'est quand ta foi a commencé à grandir? Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Quand tu es né. Quand est-ce que tu es né? Quand tu as rencontré le message de l'Évangile et qu'il t'a touché et qu'il t'a fait naître de nouveau, lui, tout seul. Tu y es pour rien. Tu y es pour rien. Tu n'as rien fait. T'as rien eu à faire. Le Seigneur a tout fait. Il est mort pour toi. Il a payé le prix. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a travaillé. Il a travaillé dur. C'est lui qui a payé le prix de ta naissance. Toi, t'as juste eu à dire merci Jésus. C'est tout ce que tu peux faire. Merci Jésus. Merci pour ce merveilleux salut. Merci parce qu'il est le mien. Merci parce que je peux recevoir ton salut glorieux. Merci parce que maintenant je suis né. Et parce que tu es né, quelque chose de nouveau s'est passé. Quelque chose de nouveau est là. Tu es né. Tu es bien né. Tu es né au bon endroit, au bon moment. Tu es né dans la bonne famille. Tu es né. Qu'est-ce que c'est ce passage de psaume 16? Moi je l'appelle l'anoblissement. C'est l'anoblissement. Tu es reconnu comme noble. Tu es né de nouveau. Tu es né. J'avais prévu un petit rébus visuel. C'est un petit rébus visuel. Né d'en haut. T'es né d'en haut. T'es né d'en haut. T'es de haute naissance. De haute naissance. Retenez-le. Tu es de haute naissance. De haute lignée. Tu fais partie d'une dynastie royale. Tu fais partie d'une race royale. Le Seigneur a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Une race élue. Tu es de haute lignée, de haute naissance. Tu es bien né. Amen. La parole te déclare fils, fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut? Ta naissance t'a fait fils, fille de Dieu. Tout a changé à cause de ta naissance. Parce que tu es né, tu as un droit de naissance qui t'appartient. Tes vêtements, c'est les vêtements du salut, les vêtements de gloire, les vêtements de justice. Tu as des hautes fonctions que Dieu t'a préparées. Tu as un haut avenir parce que tu es appelé à régner avec lui. Tout est là. Tu as un héritage merveilleux que le Seigneur t'a concocté, qu'il t'a mis à part pour toi. Tout est prêt. Vous savez ce qu'on faisait dans la noblesse, souvent aussi quand quelqu'un naissait? On préparait un trousseau. Il y avait un trousseau à ma connaissance, non? Ça veut dire qu'on mettait de côté tout ce qui était pour toi. Il y avait un héritage, il y avait un compte, il y avait tout ce qu'on pouvait réfléchir. Il y avait un trousseau. Le Seigneur t'a préparé un magnifique trousseau parce que tu es né dans sa maison. Tu es fils, fille du roi, fille de Dieu. Tu fais partie des grands de son royaume. Tu fais partie de sa noblesse. Tu fais partie des nobles. Vous savez qu'il y a dans Luc 1:3, qui c'est qui connaît par cœur ce verset? Très excellent Théophile. Je t'ai écrit très excellent Théophile. Très excellent. Il y a beaucoup de versions qui disent tout à fait noble. Il y a même une version anglaise qui dit Your Excellency, ton excellence, son excellence Théophile. Qu'est-ce que ça veut dire Théophile? L'amoureux de Dieu. Très excellent amoureux de Dieu. Il y a combien d'ici très excellent amoureux de Dieu? Si tu aimes Dieu, le Seigneur t'appelle son excellence. Son excellence. Tu as des titres de noblesse que le Seigneur Jésus partage avec toi. Ton excellence. Très excellent. Tu es très excellent. Tu es très noble. 2 Jean 1:3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ce verset? Qu'est-ce qui vous choque dans ce verset? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Le Fils du Père. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce que là, il y a marqué? Fils du Père. Qui est-ce qu'ici n'est pas fils de son Père? Qui est-ce qu'ici, qui lève le doigt, n'est pas fils de son Père? Pourquoi le Seigneur donne une information ici, redondante, inutile, qu'on savait déjà? Jésus, fils de son père, oui, on le sait. Hein. Alors évidemment, c'est parce qu'il veut rappeler que Jésus est né de Dieu, que Dieu est un père et il est un fils. Mais je crois que le Seigneur a caché quelque chose pour les Français. Le fils de papa. Fils de papa. Et vous savez, en France, un truc qu'on n'aime pas trop, ce sont les fils à papa. Tu sais ce que tu es ? Eh bien, je vais te dire, désolé pour toi, mais tu es un fils à papa. Tu n'es qu'un fils à papa, ou une fille à papa. Tu es un fils, une fille à papa. Voilà ce que le Seigneur a dit à Jésus, fils à papa, va. Jésus, tu n'es qu'un fils à papa. Eh bien oui, pourquoi ? Parce que le Père a tout préparé pour le Fils. Il lui donne tout. Le Fils ne fait rien sans qu'il le voie faire au Père. Le papa a tout préparé pour son Fils. Et quand le Fils demande quelque chose, papa, il court pour le faire. Et toi, tu es un fils à papa, tu es une fille à papa. Ton papa céleste, il n'a qu'une envie, c'est de prendre soin de toi, de chercher à s'occuper de toi, de faire tout ce que tu as besoin, de s'occuper de tes besoins. Tu es un fils à papa. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dernièrement avec notre président qui voulait placer son fils quelque part. Et alors toute la France, elle s'est élevée. Pourquoi ? Pourquoi la France s'est élevée contre ça ? Parce qu'on a peur. On a peur que du coup ce soit quelque chose qui va juste bénéficier pour eux, qui n'est que pour leur propre gloire, pour leur propre richesse, pour juste cette famille. On n'est pas tranquille, on n'est pas sûr qu'en nommant son fils à ce poste, ce soit pour le bien de la nation. Ce n'est pas le fait de placer le fils qui nous fait peur. On n'est pas sûr que le fils soit la bonne personne et que ce soit pour le bien de la nation. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Papa, il fait pareil. Il place ses fils et ses filles à de hauts rangs et à de hautes positions. Mais il le fait en sachant avec qui il le fait. C'est lui qui t'a fait naître. C'est lui qui t'a formé. Et il a mis en toi son caractère. Il a fait de toi quelqu'un qui a été créé pour la nation. Il a fait de toi quelqu'un qui a été formé pour la nation, pour le salut de la nation. Et il sait que quand il va te placer à un poste élevé, tu vas bénir la nation. Tu vas le faire pour le bien de la nation. Ce ne sera pas juste pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta richesse. Mais il sait qu'il fait quelqu'un de toi qui bénit la nation et qui bénit le pays. Et alors, c'est en toute légalité que Dieu place ses fils et ses filles. C'est dans l'honneur. C'est glorieux parce que tu es la bonne personne, parce que c'est juste. Amen. Attends-toi à être placé par Dieu. Là où Dieu te place, tu es fils à papa. Tu viens en tant qu'héritier du royaume, en tant que noble de cour royale, en tant que prince dignitaire. Et là où Dieu te place, peu importe ton titre humain, c'est pas important. Peu importe ta fonction humaine, c'est pas important. Le Seigneur a dit qu'il prenait pas les nobles selon la chair. Ça veut dire qu'il va pas non plus les placer dans une fonction nécessairement noble selon la chair. Par contre, il va les placer dans un endroit où la noblesse du roi va se manifester dans leur fonction terrestre. Amen. Tu vas manifester le caractère de la noblesse royale et de race royale, de haute lignée, là où Dieu te place. Et on verra que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu et que tu es de haute naissance. Tout est une question de naissance. À ta naissance, tu as tout reçu. Tu as tout reçu. Tu peux rien avoir de plus et rien ne manque. Tout est là. Tu as tout le package. Luc 19, 12, il nous dit « Un homme de haute naissance s'en alla. » Un homme de haute naissance. Tu es cet homme, tu es cette femme de haute naissance. J'arrive à un point particulier et délicat de ce que je voulais partager. Est-ce que vous me donnez encore quelques minutes ? Vous êtes avec moi encore un peu ? Qu'est-ce qu'elle a fait la France ? On sait qu'en tant que nation, on a rejeté notre roi. On a tué notre roi. En faisant ça, on a fait comme ceux qui voulaient attaquer Israël, qui touchaient à la tête. Et on est descendu en tant que nation, parce qu'on a touché notre roi et on l'a tué. Et on sait que par l'absence du roi, par la mort du roi, il y a un manque de paternité qui est venu sur notre nation et une souffrance. Et il y a quelque chose qui manque de l'autorité royale, de l'autorité divine dans notre nation. Mais vous savez ce qu'on a aussi fait ? On a tué notre noblesse. On s'est attaqué à notre propre noblesse. On lui a coupé la tête, hein, non, on peut le dire en vrai, par la guillotine, on a coupé la tête de notre noblesse. Et quand on a fait ça, on s'est attaqué aussi à la racine de notre nation. Parce que le Seigneur honore le roi, et en honorant le roi, il honore la noblesse et la race royale. Et notre nation a rejeté sa race royale et sa noblesse. Pourquoi notre nation a-t-elle fait ça ? Parce qu'effectivement, il y avait des erreurs chez le roi et chez la noblesse. Ils vivaient pour eux-mêmes, ils se satisfaisaient eux-mêmes, et ils n'aimaient plus la nation, ils ne cherchaient pas le bien de la nation, certainement. Il y a eu des erreurs de leur part. Mais en faisant ça, on s'est sabordé nous-mêmes. Il y a un manque dans notre nation. Il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que quelque part, en rejetant la noblesse, on a rejeté premièrement l'autorité divine, on a rejeté le fait que Dieu honorait la royauté, mais aussi il nous manque encore quelque chose. Il y a déjà un trou. Alléluia Jésus. Parce que par la noblesse, en s'attaquant à la noblesse, on s'est attaqué au droit de naissance. On s'est attaqué au droit de naissance. On a dit, il n'est plus question que dans notre pays, on honore le droit de naissance, que telle personne puisse avoir tel poste élevé parce qu'il est bien né. Il n'est plus question que telle personne ait de la richesse parce qu'elle est née dans telle famille. On a rejeté le droit de naissance. On a dit, on ne veut pas que parce qu'il est né dans telle famille, il ait tous les droits, qu'il ait le droit de commander, qu'il ait le droit de régner, qu'il ait le droit d'être juge, qu'il ait le droit d'être avocat, qu'il ait le droit de faire toute la gestion de la ville de Paris. On ne veut plus de ça. On a élevé le droit au mérite. On a dit, on veut maintenant que ce soit à cause du mérite que telle personne ait tel poste. Ce n'est pas faux. Dieu honore aussi le mérite. Mais quelque part, nous, on l'a surélevé ce droit-là. On a dit maintenant on va fonctionner par le mérite, par ce qu'on veut faire. Et vous savez quoi ? Je crois qu'en tant que peuple chrétien, on fonctionne de la même façon. On rejette nos propres droits. Les droits que Dieu nous donne, on les rejette, on a tendance à les rejeter parce que ce sont des droits de naissance. Et qu'en tant que Français, peut-être en tant qu'être humain, on veut honorer le droit au mérite. Je peux être un bon chrétien seulement parce que je fais bien. J'ai le droit d'être à telle fonction parce que je fais tout bien. Et si je ne fais pas bien, si je n'arrive pas à être juste, si je n'arrive pas à être droit, si je n'arrive pas à faire telle chose ou telle ceci ou cela, je n'y ai pas droit. On rejette notre droit de naissance, tout ce que Dieu nous a donné gratuitement et par grâce, pour essayer de faire par nous-mêmes. Et on fonctionne comme on fait nos pères. On élève le droit au mérite. Et je crois qu'il y a un temps de repentance. Nous avons besoin de nous repentir d'avoir rejeté notre noblesse. Le droit de naissance, le Seigneur l'appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, tu reçois tout parce que simplement tu es né en premier. Tu reçois le double par rapport à tes frères et sœurs. Quelle est la justice là-dedans ? Où était la justice en Israël d'avoir tout parce que tu étais l'aîné ? Il n'y a pas de justice. Sauf que c'est la justice parce que c'est ainsi. Ça a été ordonné par le droit légal, c'est comme ça. Et le droit de naissance est un droit d'aînesse. En tant qu'enfant de Dieu, tu reçois un droit d'aînesse d'office. Tu reçois tout par naissance. Tout appartient par naissance. La grâce, l'onction, l'huile de joie, la présence de Dieu, la justice, la sainteté, la gloire, la droiture, l'héritage, tout est un droit de naissance. On doit se repentir d'avoir fonctionné par le droit au mérite et d'avoir rejeté notre noblesse. Et recevoir à nouveau une noblesse. Je ne sais pas si le Seigneur veut redonner une noblesse en France, c'est pas mon sujet. Ça appartient au Seigneur. Mais je sais que spirituellement, nous devons rentrer dans un état de noblesse. Avoir une mentalité de noble, une mentalité royale, une mentalité de prince. Vous savez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 32 ? Si je reviens dans Isaïe 32 à la fin, et je vais arrêter avec ça. Et ça, ça parle de notre éducation chrétienne. Pardon, c'est psaume 45, excusez-moi, psaume 45. Ce merveilleux psaume qui parle de l'amour pour le roi, qui élève la reine, qui parle de toute l'ambiance royale, avec la fête, la gloire, la joie, etc. Verset 17. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Tes enfants prendront la place de tes pères et tu les établiras princes dans tout le pays. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu des pères qui étaient princes. Tu as reçu le fait d'être prince, tu as reçu tes droits royaux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu établis tes fils comme princes. Tu les établiras princes à la place de tes pères. Si toi tu ne reçois pas un rang royal, un rang de prince, comment vas-tu faire pour établir tes fils comme princes sur le pays? Tu ne peux pas établir prince si toi tu ne l'as pas reçu d'abord. Est-ce qu'en tant que France, en tant que nation, on veut établir des princes dans le pays? Patrick, en tant qu'école, est-ce qu'on veut établir des princes dans le pays? Si on veut établir des princes dans le pays, il faut que ce soit à la place de leur père. Et si on veut les établir comme princes, il faut qu'on ait une mentalité de prince et de père. De prince et de père. Si tu n'as pas une mentalité de prince, tu ne formeras pas des princes. Et ceux que tu formeras, ils auront ta mentalité, ta façon de voir les choses. Ils ne vont pas changer la nation parce que tu n'as pas changé. Premièrement, nous devons recevoir notre mentalité de prince. D'où nous vient notre mentalité de prince? De nos pères. Et si le père, ils n'ont pas réussi à la transmettre, on doit la rechercher de nouveau. Rechercher la mentalité de prince. Et si on ne la trouve pas, reprenons-la dans la parole. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes de race royale. Nous sommes appelés à régner et déjà à régner sur la terre dans notre nation. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'il y a une école chrétienne. C'est pour ça que Josué existe. Donc, nous devons nous repentir. Abandonner la vieille mentalité esclave. La mentalité de serf, S-E-R-F. La mentalité de servitude. La mentalité d'esclave. La mentalité de méritocratie et recevoir une mentalité d'aristocratie, une mentalité de noblesse, une mentalité royale, pas pour dominer, pas pour écraser, mais pour aimer la nation et la servir à partir de notre poste, à partir de la mentalité juste. Nous allons les établir princes sur le pays, nos enfants. Amen. Nous les établirons princes. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir venir devant toi maintenant. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir tué notre noblesse, de l'avoir rejetée. D'avoir rejeté, Seigneur Jésus, ce droit de naissance. D'avoir rejeté ce droit d'héritage. Ce droit de bénédiction simplement parce que nous sommes bien nés. Alléluia, Jésus. Vous savez qu'il y avait le court-métrage, je vous en ai parlé par rapport à l'école. Et dans le court-métrage, il y avait justement un petit film qui parlait de la noblesse. Et qu'est-ce qui est ressorti de la noblesse? C'est le langage prétentieux, le langage précieux ridicule. Tout pour moi. Les autres, ce sont que des mécréants, des roturiers, des moins que rien. Nous nous repentons, Seigneur Jésus, de cette mentalité noble qui a écrasé le peuple, qui l'a regardé comme minable et comme rien. Nous nous en repentons et nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, nous reconnaissons que tu aimes le peuple, que tu veux le bénir, que Seigneur, tu veux l'élever et que pour l'élever, tu as mis à part des gens pour le servir et tu as transmis en eux des capacités, des compétences, une mentalité, de la droiture, un caractère noble. Et Seigneur, en tant que peuple, nous nous repentons et nous te demandons pardon d'avoir rejeté notre noblesse et de l'avoir tuée et de l'avoir écrasée, de l'avoir coupé la tête Nous nous repentons d'avoir rejeté le droit de naissance. Seigneur, nous nous repentons. Nous te demandons pardon. Et Seigneur, nous recevons par grâce ta mentalité, une mentalité juste, une mentalité de juste, une mentalité de noble, une mentalité de prince, mentalité de roi, mentalité de grand, de haut dignitaire, mentalité de chef, mentalité de capitaine. Seigneur, parce que tu veux les établir princes sur le pays. Parce que Jésus, tu nous as regardés comme des égaux et que tu es prince, que tu es roi, que tu es chef, que tu es fait partie des grands, tu es le grand. Seigneur, nous recevons cette mentalité de transmission d'héritage. Nous recevons l'héritage royal, l'héritage princier, et nous le faisons fructifier, nous l'honorons et nous le transmettons à nos fils et nos filles. Nous recevons cette mentalité d'héritage et de haute naissance. Nous recevons cette mentalité de droit de naissance, de droit d'aînesse, par lequel nous avons tout reçu par grâce, à cause de notre nouvelle naissance, par laquelle nous sommes nés d'en haut, nés du Père, nés de l'Esprit. Nous sommes bien nés de haute naissance. Seigneur, nous recevons cette mentalité de noblesse pour servir, pour honorer notre nation, pour la faire grandir, pour la rendre heureuse, pour la guérir, pour la diriger avec sagesse, honnêteté, droiture, amour. Seigneur, nous proclamons la guérison dans nos mentalités et la guérison dans nos familles et la guérison dans notre nation. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen.